Chapitre 26. Valles Marineris entre Eos Casma et Copraes Casma. Au bout de 3 semaines de navigation dans Valles Marineris, une mer intérieure bien plus qu'un fleuve, Manmut se croyait sur le point de perdre sa petite tête de Moravec. Leur felouque, dont l'équipage comptait 40 petits hommes verts, n'était que l'un des éléments d'une flotte sillonnant d'est en ouest les eaux du canyon englouti et du nord au sud celle de l'estuaire débouchant sur la mer de Crisée Planitia, nom donné à cette partie de l'océan boréal. Outre une 20aine de navires identiques aux leurs, ils croisaient quotidiennement au moins 3 barges de 100 mètres de long, chacune chargée de 4 blocs de pierre destinés à devenir autant de têtes sculptées, en provenance des carrières situées au sud de Noctis Labyrinthus, à l'extrémité occidentale de Valles Marineris, soit à 2800 km de leur position actuelle. Orfudio avait été transporté à bord et installé sur l'un des ponts inférieurs, dissimulé par une toile goudronnée et arrimé à proximité des objets récupérés dans la Dame Noire. Le simple fait de penser à son submersible, abandonné dans une grotte sur la côte de Crisée Planitia à 1500 km de là, plongeait Manmut dans la dépression. Jusque-là, il ne s'était pas cru vulnérable à cette affliction. Un mélange de malaise émotionnel et de désespoir absolu qui le laissait sans volonté ni ambition, ou presque. Mais être séparé de son submersible lui faisait découvrir de nouveaux abîmes. Orfu, aveuglé, mutilé, traité comme un vulgaire poids mort, semblait par contraste d'excellente humeur, mais Manmut savait maintenant que son ami ne montrait que rarement ses véritables sentiments. Comme promis, la felouque avait débarqué le lendemain de leur arrivée sur la côte, et pendant que les PHV y chargeaient ce pauvre Orfu, Manmut était descendu dans le submersible à plusieurs reprises, y récupérant tout ce qu'il pouvait, unités énergétiques, cellules solaires, équipements de communication, disques d'archives et instruments de navigation.
« Tu as nagé tout nu jusqu'à l'épave, dont tu es revenu les poches emplies de biscuits. C'est ça ?»
lui déclara Orfu ce matin-là, après qu'il lui eut fait le récit de ses expéditions.
« Pardon ?»
Manmut s'était demandé si l'Ionien, tant éprouvé, n'avait pas fini par perdre l'esprit.
« Une petite erreur de cohérence dans Robinson Crusoe, » expliqua Orfu en grondant. « J'adore les erreurs de cohérence. »
« Jamais lu ce livre, » répliqua Manmut. Il n'était pas d'humeur à badiner. Abandonner la Dame Noire lui déchirait le cœur. Ils discutèrent longuement de cette réaction durant les 3 premières semaines de voyage, car il n'y avait pas grand-chose à faire à bord de la felouque, excepté discuter. Le transmetteur radio de courte portée que Manmut avait greffé au port d'Orfu fonctionnait à la perfection.
« Tu souffres d'agoraphobie tout autant que de dépression, » déclara Orfu.
Comment cela ?
Tu as été conçu, programmé et formé pour être partie intégrante de ton submersible, enfoui sous les glaces d'Europe, entouré par les ténèbres et les profondeurs écrasantes, bien à l'aise dans ton espace confiné. Les brefs séjours que tu as effectués à la surface sur les glaces d'Europe n'ont pas pu te préparer à ces grands espaces, à ces horizons lointains et à ces ciels bleus.
Le ciel n'est pas très bleu en ce moment.
Répliqua-t-il faiblement. Le jour venait de se lever et, comme tous les matins, Valles Marineris était envahi de bancs de brume et de nuages bas. Les PHV serraient les voiles de la felouque et la faisaient avancer à la rame. Ils étaient 30 à ramer, 15 de chaque côté, apparemment infatigables, chaque fois que le vent était trop faible pour la pousser. Des lanternes brillaient sur la proue, le mât principal, la poupe et le bastingage, et la felouque était quasiment immobile. Il se trouvait dans une section de Valles Marineris qui atteignait 120 km de large et se préparait à aborder une sorte de mer intérieure qui en faisait bien 200. Même par temps clair, les falaises qu'il abordait au nord et au sud leur resteraient invisibles, mais la circulation était si dense qu'une telle précaution semblait amplement justifiée. Manmut comprit qu'Orfu avait raison. L'agoraphobie faisait partie de son problème, car plus l'horizon était dégagé, plus il se sentait mal. Mais que l'absence de sa crèche douillette et de ses ports sensoriels rassurants n'expliquait pas tout. Manmut avait toujours été, un capitaine, et son programme et ses lectures lui avaient appris que rien n'affectait autant un capitaine que la perte de son navire. En outre, on lui avait confié une mission des plus importantes, conduire Coros III au pied d'Olympus Mons et il avait lamentablement échoué à l'accomplir. Coros III était mort, ainsi que Ripo, le Moravec dont le rôle était de rester en orbite et de réceptionner, d'interpréter et de transmettre les données collectées par Coros durant sa mission de reconnaissance.
Mais les transmettre à qui, comment et quand? Manmut n'en avait aucune idée.
Ils abordèrent aussi ce sujet durant leur long et calme voyage. Les nuits étaient encore plus paisibles que les journées, car les PHV entraient en période d'inactivation dès la tombée du soir, immobilisant la felouque au moyen d'une ancre flottante. Manmut avait effectué des mesures au sonar et constaté que la profondeur atteignait 6000 mètres, et ne se réveillant que le lendemain, à l'instant où les rayons du soleil frappaient leur peau verte. De toute évidence, les PHV captaient directement l'énergie solaire, même lorsque les brumes matinales filtraient la lumière du jour. En tout cas, Manmut ne les avait jamais vus manger ou excréter quoi que ce soit. Il aurait pu leur poser la question, mais bien qu'Orfus supposa que les PHV ne mourraient pas à l'issue d'une communication, ils formaient selon lui une entité collective plutôt qu'une population d'individus, Manmut n'acceptait pas cette hypothèse au point d'être disposé à sacrifier un nouvel interprète, et il préférait remettre à plus tard la résolution de cette énigme. Mais rien ne l'empêchait de poser des questions à Orfus.
Pourquoi nous ont-ils envoyés ici ?
Demanda-t-il le dixième jour.
Nous ne comprenons pas notre mission, et même si nous la comprenions, nous ne sommes en rien qualifiés pour la mener à bien. C'était de la folie d'envoyer ici des ignares tels que nous.
Les administrateurs Moravec ont coutume de cloisonner les tâches et de les répartir entre spécialistes,
répondit Orfus.
Tu étais le plus qualifié pour conduire Coros III jusqu'au volcan. J'étais le Moravec le plus apte à assurer la maintenance du vaisseau spatial. Pas un instant, ils n'ont envisagé la possibilité que nous soyons obligés de prendre en charge les tâches assignées aux autres.
Mais pourquoi ? Il savait sûrement que cette mission était dangereuse.
Orfus émit un grondement d'hilarité.
Probablement ont-ils estimé que c'était tout ou rien, que nous péririons tous dans le pire des cas.
C'est ce qui a failli nous arriver,
marmonna Manmut.
Et c'est probablement ce qui se produira.
Dis-moi le temps qu'il fait. Est-ce que la brume s'est levée?
Journée, paysage et nuit étaient magnifiques. Manmut ne connaissait des planètes à atmosphère que les données relatives à la Terre contenues dans ses archives. Aussi Mars terraformée représentait-elle pour lui une variation intéressante. La couleur du ciel allait de l'azur de midi au rouge rosé du soir, qui virait parfois à un or pur infusant dans toute chose une lumière intérieure. Le soleil lui-même semblait sensiblement plus petit que l'astre diurne, tel qu'il apparaissait sur les images terriennes, mais il était incommensurablement plus grand que celui que les Moravec galiléens connaissaient depuis deux millénaires. La douce brise apportait un parfum de sel et parfois de végétation, ce qui n'était pas sans le surprendre.
« Tu ne te demandes jamais pourquoi on nous a dotés de ce sens-là ? »
demanda Orfus lorsque Manmut lui décrivit la végétation poussant sur les berges de l'estuaire de Valles Marineris.
« Quel sens ?»«
L'odorat. »
Le Moravec dut réfléchir avant de répondre. Il avait toujours considéré son odorat comme allant de soi, bien qu'il fût totalement inutile sous l'eau et même à la surface d'Europe, et presque inutile dans l'environniche de la Dame Noire. En d'autres termes, dans la quasi-totalité de son environnement quotidien.
C'est grâce à mon odorat que je repérais les émanations toxiques dans le submersible ou dans les chambres pressurisées de Connemara Central,
finit-il par déclarer. Il savait cependant que cette réponse n'était pas satisfaisante. Les Moravec disposaient de détecteurs plus efficaces pour parer à ce genre de danger. Orfus eut un grondement sourd.
« Peut-être aurais-je pu sentir le soufre sur la surface d'Io, mais à quoi bon ?»«
Tu peux sentir les choses ?»
demanda Manmut.
« Cela n'a guère de sens chez un Moravec configuré pour le vide spatial. »
« En effet, pas plus que ma capacité à percevoir mon environnement via le spectre visuel humain, mais c'est néanmoins celui-là qui avait ma préférence. »
Manmut s'abîma dans de nouvelles réflexions. C'était la vérité. Lui-même agissait pareillement, bien qu'il fût capable de percevoir l'infrarouge comme l'ultraviolet. Il savait que son ami percevait également les ondes radio et les lignes de champs magnétiques auxquelles les humains à l'ancienne étaient aveugles, ce qui était normal pour un Moravec travaillant dans l'espace galiléen baigné de rayons cosmiques. Alors pourquoi l'Ionien préférait-il se limiter aux fréquences visibles à l'œil humain ?
À mon avis,
reprit Orfu, répondant à la question muette de Manmuth, sans la moindre trace d'ironie ni d'amusement.
C'est parce que nos concepteurs et les générations de Moravec qui leur ont succédé désiraient en secret devenir humains. L'effet Pinocchio, pour ainsi dire.
Manmuth n'était pas d'accord avec cette hypothèse, mais il se sentait trop déprimé pour discuter.
Que sens-tu en ce moment ?
Demanda Orfu.
De la pourriture,
répondit Manmuth tandis que la felouque entrait dans le large estuaire par le chenal sud.
On se croirait au bord de la Tamise de Shakespeare par marée basse.
Durant la première semaine de voyage fluvial, Manmuth tenta d'échapper à l'oisiveté génératrice de folie en démontant et en inspectant, le plus soigneusement possible, les trois autres artefacts récupérés sur le submersible, Orfu étant le quatrième. Le plus petit d'entre eux, un ovoïde lisse à peine plus grand que son torse, n'était autre que l'engin, l'élément le plus important de la mission de feu Koros III. Tout ce que Manmuth et Orfu savaient à son propos, c'était que le Ganymédéen était censé l'apporter à Olympus Mons et l'activer si de mystérieuses conditions étaient remplies. Manmuth sonda l'engin au sonar et préleva un minuscule spécimen de sa coque réfléchissante en alliage transuranien. Sa fonction demeura énigmatique, et la machine à proprement parler, s'il s'agissait bien d'une machine, était de nature macromoléculaire, un mécanisme à échelle nanométrique dont le noyau central constituait en une colossale quantité d'énergie confinée dans des champs internes. Le seul engin que Manmuth put identifier était une sorte de verrou réagissant à une décharge électrique. En appliquant un courant de 32 volts en un endroit bien précis de la coque, on faisait quelque chose à cette macromolécule.
C'est peut-être une bombe,
dit Manmuth en remettant en place le fragment de coque.
Sacrée bombe,
marmonna Orfu.
Si le rôle de cette molécule est de protéger l'intérieur, on a peut-être même affaire à une super bombe. Casse cet œuf et tu auras une sacrée omelette sur les bras.
Manmuth fit semblant de ne pas avoir entendu, ne souhaitant pas jeter son ami par-dessus bord, ce qui aurait été préjudiciable à leur relation. Il considéra les falaises du rivage. Ce jour-là, il voguait à moins de 3 kilomètres de la côte australe de la mer intérieure, et imagina cette splendeur écarlate réduite à néant. Il pensa aux mangroves périscopiques qui poussaient dans les marécages, aux taupières naturelles accrochées sur les hauteurs, et même au ciel d'un bleu fragile peuplé de cirrus, et tenta d'imaginer tout un monde annihilé par une puissante explosion quantique. Cela lui parut injuste.
« Vois-tu ce que ça pourrait être à part une bombe ? »
demanda-t-il à Orfu.
« Pas vraiment. Mais un objet recelant une telle quantité d'énergie quantique participe d'une technologie qui me demeure incompréhensible. Je te suggérerais de traiter l'engin avec douceur, de le poser sur un coussin ou quelque chose comme ça. Mais vu qu'il a déjà survécu à une attaque de char divin et à une entrée dans l'atmosphère qui m'a grillé et démoli ton navire, il n'est sans doute pas très fragile. Range-le d'un coup de pied bien placé et passons à la suite. Quel est l'objet suivant ?
L'objet suivant était un peu plus gros que l'engin, mais tout aussi énigmatique.
C'est une sorte de communicateur modulateur, dit Manmuth. Il est replié sur lui-même, mais je vois que si je l'active, il se déploiera sur un trépied, pointera une antenne parabolique vers le ciel et émettra une salve de... quelque chose. De l'énergie encryptée dans un faisceau étroit. Un maser, ou peut-être des modulations de gravité.
Pourquoi Koros avait-il besoin de ce truc ? Les satellites COM sont toujours en orbite, et le vaisseau aurait relayé toute transmission vers l'espace galiléen. Pour submersible lui-même aurait pu contacter la base, bon sang.
Peut-être que cet appareil n'est pas conçu pour entrer en liaison avec Jupiter,
suggéra Manmuth.
Avec qui, alors ?
Manmuth n'avait aucune réponse.
Comment Koros allait-il crypter ses messages ?
Demanda l'Ionien.
Il y a des ports virtuels,
reprit Manmut après avoir examiné la machine à coque de nanocarbone.
Nous pourrions télécharger là-dedans toutes les données recueillies, les crypter et activer ce « truc », comme tu dis. À moins qu'un code ne soit nécessaire. Tu veux que je tente le coup ?
Non. Pas encore.
Dans ce cas, je le referme.
Quelle est la source d'énergie de ce communicateur ?
Demanda Orfu avant que Manmut ait pu joindre le geste à la parole. Quoique cette technologie lui fût étrangère, Manmut lui décrivit le conteneur magnétique et les schémas du champ de force.
Tiens, tiens, fit Orfu. C'est de la Felsenmasse de Chefkov, de l'antimatière artificielle similaire à celle que le consortium a utilisée pour la première sonde interstellaire. Il y a assez d'énergie là-dedans pour nous garder en vie et en forme pendant plusieurs siècles terriens, à condition que nous trouvions un moyen de la capter.
Manmut sentit son cœur organique battre plus fort.
Aurait-elle pu se substituer au réacteur à fusion de la dame ?
Orfu observa un silence de plusieurs secondes.
Non, je ne le pense pas, dit-il finalement. Le flux d'énergie aurait été trop important et trop difficile à contrôler. Il est possible que toi et moi puissions boire goutte à goutte à cette source, mais je ne pense pas que nous ayons pu installer un robinet pour alimenter la Dame Noire, même si celle-ci avait été réparable. Tu m'as bien dit que tu n'aurais jamais pu la réparer tout seul, n'est-ce pas ?
J'aurais eu besoin de la mettre en cale sèche à Connemara.
Manmut était à la fois navré et soulagé d'apprendre que ce gadget n'aurait pas pu sauver la pauvre dame. La perte de son navire l'attristait, mais l'idée de rebrousser chemin et de parcourir les 2000 kilomètres qui l'en séparaient était encore plus déprimante. Le dernier objet était aussi le plus gros, le plus lourd et le plus énigmatique aux yeux de Manmut. Il se présentait sous la forme d'une caisse en bambou 3 d'1,50 m de haut sur 2 m de large, enveloppée de polymère transparent. À l'issue d'un bref examen, Manmut vit qu'elle contenait une feuille de polyéthylène furtif ultra fin d'une surface atteignant plusieurs centaines de mètres carrés, à laquelle étaient cousues des bandes de capteurs solaires, 24 segments de titane conique articulés et partiellement assemblés, 4 bonbonnes pressurisées contenant de l'hélium, un mélange oxygène-azote et du méthanol, 8 tuyères atmosphériques contrôlées par téléguidage et finalement 12 câbles de fulrène de 15 mètres de long fixés aux 4 coins de la caisse.
Je renonce,
dit Manmut au bout de plusieurs minutes de cogitation et de manipulation également infructueuse.
Qu'est-ce que c'est que ce machin ?
Un ballon,
répondit Orfu. Manmut secoua sa petite tête de Moravec. On trouvait des ballons, organiques et Moravec, dans l'atmosphère de Jupiter, ainsi que dans cette soupe qui passait pour la biosphère de Saturne. Mais pourquoi diable Coros III avait-il pris la peine d'apporter un ballon artificiel sur Mars ? Orfu lui apporta la réponse à cette question en même temps qu'il la déduisait par lui-même.
La mission de Coros III était d'atteindre le sommet d'Olympus Mons, le centre de la perturbation quantique, et un tel moyen de transport le dispensait de gravir le volcan. Quelles sont les dimensions de ce ballon ?
Manmut communiqua les données à l'ionien.
Si on le gonflait à l'hélium au niveau de la mer martienne, déclara Orfu, il aurait un grand axe de 60 m et une hauteur de 35, ce qui lui permettrait d'emporter la nacelle, l'engin, le communicateur et ta personne aux confins de l'espace ou au sommet d'Olympus.
La nacelle ?
Répéta Manmut, qui peinait encore à assimiler le concept d'aérostat.
La caisse contenant le tout. De toute évidence, Coros III avait l'intention d'y embarquer. Est-ce qu'elle est équipée d'un toit en transpolymère, d'une sorte d'enveloppe pressurisée ?
Oui.
Et voilà.
Mais il y a un escalator sur la face sud d'Olympus Mons,
dit bêtement Manmut.
Coros et les autres planificateurs de cette mission ne pouvaient pas le savoir.
Manmut détourna les yeux du ballon pour réfléchir une minute. Les falaises de la rive sud de Valles Marineris s'étaient réduites à une fine ligne rouge sur l'horizon bleu-vert, la felouque ayant atteint les chenaux centraux du courant estuarien.
« La nacelle est trop petite pour te contenir, »
dit-il.
« Eh bien, naturellement... »«
Je vais en construire une plus grande, »
coupa Manmut.
Penses-tu vraiment que nous devrons nous rendre au sommet d'Olympus Mons ? Demanda doucement Orphu.
Je ne sais pas. Mais je sais que nous serons encore à plus de 2000 kilomètres du volcan lorsque nous parviendrons à l'extrémité occidentale de Valles Marineris. Si nous y arrivons. J'ignorais comment nous pourrions franchir le chaos de Noctis Labyrinthus et le plateau de Tarsis pour gagner Olympus. Mais ce ballon va nous le permettre. Enfin, peut-être.
Nous pourrions l'assembler tout de suite, proposa Orphu. Il irait plus vite que cette... Comment as-tu dit déjà ?
Felouk.
Manmut leva les yeux vers les étoiles et le gréement qui se détachait nettement sur fond de ciel rose et bleu. Plusieurs petits hommes verts grimpaient dans les cordages sans effort apparent.
Non, je pense qu'il faut attendre le dernier moment pour lancer ce ballon,
dit-il.
Il est équipé d'une couche caméléon, y compris sur la nacelle, mais peut-être que ses conducteurs de chars sont quand même capables de le repérer. Nous attendrons d'avoir atteint Noctis Labyrinthus. Le périple qui nous attendra alors sera déjà assez difficile, vu que trois des volcans martiens les plus élevés se dresseront entre Olympus et nous.
Orphu émit un grondement quasi subsonique.
Le tour du monde en 80 jours, c'est ça ?
Pas le tour du monde, non, répliqua Manmut. En comptant ce voyage en bateau, nous n'en aurons fait qu'un peu plus du quart.
Manmut tenta de passer le temps et d'oublier ses idées noires en lisant les sonnets de Shakespeare dans l'édition papier qu'il avait récupérée à bord de la Dame Noire. En pure perte. Alors qu'il se plongeait naguère sans problème dans l'analyse littéraire, dénichant dans les sonnets structures cachées, correspondances verbales et contenu dramatique, il lui paraissait à présent fort triste. Triste et méchant. Manmut le Moravec était totalement indifférent à ce que Will, le poète des sonnets, pouvait faire au jeune homme, ainsi qu'à ce qu'il attendait de lui en retour. Il n'avait ni pénis ni anus, et cela ne lui manquait pas. Mais les flatteries et les menaces qu'échangeaient le jeune, riche mais un peu stupide, et son aîné le poète lui apparaissaient désormais comme oppressantes, voire franchement perverses. Il passa au sonnet dédié à la Dame Noire, mais ceci était encore plus cynique, encore plus pervers. Manmut était d'avis que c'était la mauvaise réputation de cette femme qui éveillait le désir du poète. Cette femme aux cheveux noirs, aux yeux noirs, aux seins brunis et aux mamelons noirs était, à en croire le poète, sinon une putain, tout au moins une traînée. Cela faisait longtemps que Manmut avait archivé l'essai Freud intitulé « Un type particulier de choix d'objets chez l'homme », dans lequel le psy de l'air perdu citait des cas d'hommes sexuellement excités par les seules femmes de mauvaise vie. Shakespeare n'hésitait pas à décrire le vagin comme la baie où chacun vient courir, ni à jouer avec les mots « ô ingénieux amour » pour évoquer la légèreté de sa dame noire, et Manmut avait passé d'heureuses années à dégager niveau de signification et structure dramatique de ce genre d'obscénité. Mais ce jour-là, alors que le soleil était près de sombrer dans la grande mer intérieure et que les falaises au nord luisaient d'un éclat rosé, il ne voyait dans ses sonnets que des souillures sur papier, les confessions abjectes d'un poète roué.
« Tu lis tes sonnets ?» demanda Orphu.
Manmut referma le livre.
« Comment le sais-tu ? Es-tu devenu télépathe depuis que tu as perdu la vue ?»«
Pas encore !» gronda l'Ionien.
Sa gigantesque carapace était arrimée à 10 mètres de l'endroit où se tenait Manmut, près de la proue.
« Certains de tes silences sont plus littéraires que d'autres, c'est tout. »
Manmut se leva pour se tourner vers le soleil couchant. Les petits hommes verts s'affairaient sur les voiles et la chaîne d'ancre, préparant le navire à la nuit.
« Pourquoi ont-ils programmé certains d'entre nous pour être passionnés par les livres humains ? »
demanda-t-il.
« En quoi cela est-il utile à un Moravec alors que l'espèce humaine a peut-être disparu ?»«
Je me suis également posé la question, » dit Orphu. « Coros III et Ripo étaient épargnés par cette affliction, mais tu as sûrement connu d'autres Moravecs obsédés par la littérature humaine. »
« Urzweil, mon équipier, ne cessait de lire et de relire la Bible du roi Jacques. Il l'a étudiée pendant des décennies. »
Oui, et il y a mon Proust et moi.
Il fredonna quelques mesures d'une chanson guillerette.
Sais-tu quel est le point commun de toutes ces œuvres qui nous passionnent, Manmut ?
Manmut réfléchit quelques instants.
Non,
dit-il finalement.
Elles sont inépuisables.
Inépuisables ?
On n'a jamais fini d'en faire le tour, Si nous étions des humains, ces romans, ces poèmes et ces pièces de théâtre nous évoqueraient des maisons où l'on trouve toujours une chambre inconnue, un escalier secret, un grenier caché, ce genre de choses.
Ouais, fit Manmuth que cette métaphore ne convainquait guère.
Tu n'as pas l'air content du barde aujourd'hui.
Il est peut-être inépuisable, mais il a fini par m'épuiser,
admit Manmuth.
Que se passe-t-il sur le pont? On s'active?
Manmuth s'arracha au spectacle du couchant. Les trois quarts de l'équipage de PHV s'affairaient en silence à jeter l'ancre, à affaler et à serrer les voiles. Encore 3 ou 4 minutes de jour et ils seraient inactivés, s'allongeant sur le pont comme pour s'éteindre jusqu'à l'aube.
Tu sens les vibrations sur le pont?
Demanda Manmuth à son ami. Excepté le sens de l'odorat, c'était la seule perception qui lui restait.
Non, je sais l'heure qu'il est, c'est tout. Pourquoi ne vas-tu pas les aider?
Pardon?
Va les aider, répéta l'Ionien. Tu es un marin des plus capables. À tout le moins, tu sais distinguer une haussière d'un autre chose. Donne-leur un coup de main, ou de manipulateur si tu préfères.
Je ne ferai que les gêner.
Il considéra la rigoureuse chorégraphie des petits hommes verts au travail. Leur souplesse et leur agilité lui rappelaient une vidéo consacrée aux singes.
« Nous ne sommes pas doués de télépathie, »
ajouta-t-il,
« mais je suis sûr qu'ils n'ont pas besoin de moi. »«
Ridicule !»
trancha Orphée.
« Rends-toi utile. Moi, je vais retrouver Monsieur Swan et sa maîtresse volage. »
Manmuth hésita quelques instants, puis rangea dans son sac à dos le précieux volume de sonnet, alla sur le pont inférieur et aida les PHV à ficeler la voile latine. Ils commencèrent par interrompre leur tâche pour le fixer comme une bête curieuse, leurs yeux ressemblaient à des grains d'anthracite plantés dans leur visage vert. Puis ils lui firent de la place et Manmuth, humant la propreté de l'air martien et jetant de temps à autre un coup d'œil au soleil couchant, se mit au travail avec résolution. Au fil des semaines suivantes, l'humeur de Manmuth évolua de la dépression au contentement et même à l'équivalent moravec de la joie. Il travaillait chaque jour aux côtés des PHV, poursuivant ses conversations avec Orphu alors même qu'il reprisait les voiles, tressait les cordages, lavait le pont, levait l'ancre et faisait son tour de pilotage. La felouque parcourait une 40aine de kilomètres par jour, ce qui semblait médiocre jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'elle avançait à contre-courant, que les vents étaient capricieux, qu'il fallait sortir les rames le plus souvent et faire halte toutes les nuits. Comme Valles Marineris faisait environ 4000 kilomètres de long, l'équivalent de cette nation de l'air perdu baptisée États-Unis d'Amérique, Manmuth estimait que leur périple durerait sans solde. Une fois atteinte la rive occidentale de la mer intérieure, comme le lui rappelait Orphu chaque fois qu'il l'oubliait, il leur resterait 1800 kilomètres à parcourir sur le plateau de Tarsis. Manmuth n'était pas pressé. Les plaisirs que lui procurait la felouque, pour ce qu'il en savait, elle n'avait pas de nom et il n'avait pas envie de tuer un petit homme vert pour en savoir plus, étaient simples et réels. Le paysage splendide, le soleil d'une chaleur agréable le jour et l'air d'une fraîcheur délicieuse la nuit et l'urgence de leur mission s'estompait sous l'effet du cycle rassurant de la routine quotidienne. Vers la fin de leur 6e semaine de voyage en mer, alors que Manmuth travaillait sur le mât principal, un char fit son apparition à moins 1 kilomètre de la proue, volant à très basse altitude, 30 mètres à peine au-dessus des voiles, et il comprit qu'il n'aurait jamais le temps de se mettre à l'abri. Il était seul au point de jonction des deux segments. La felouque est équipée de voiles triangulaires et de mâts segmentés inclinés vers l'avant. Et pas un seul petit homme vert ne se trouvait dans le gréement. Manmuth était totalement exposé au regard du ou des occupants du char. Celui-ci passa à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, si bas que Manmuth vit que les deux chevaux le tirant étaient en fait des hologrammes. À son bord ne se trouvait qu'un seul homme, vêtu d'une tunique légère, tenant fermement les rênes virtuelles. Il avait une peau dorée, des traits marmoréens et de longs cheveux blonds flottant tel un oriflamme. Il ne daigna même pas baisser les yeux. Manmuth profita de l'occasion pour scruter le véhicule et son occupant sur toutes les fréquences à sa disposition, visibles et autres, transmettant les données à Orphu en temps réel au cas où le dieu l'apercevrait et déciderait de l'annihiler d'un geste de la main. Chevaux, rênes et roues étaient holographiques, mais le châssis du char était concret, fait dans un alliage d'or et de titane. Manmut ne détecta aucun propulseur chimique ou ionique, mais le char émettait de l'énergie sur la totalité du spectre électromagnétique. De quoi parasiter une transmission radio ordinaire. Plus préoccupant, cette machine volante produisait un sillage quantique dans les quatre dimensions. Une partie de son profil énergétique était englobée dans un champ de force nettement perceptible dans l'infrarouge, un bouclier d'énergie à l'avant conçu pour protéger l'appareil des déplacements d'air causés par sa course, et une bulle défensive de diamètre plus important. Manmut se félicita de ne pas lui avoir lancé un caillou ni une décharge énergétique, ce qui lui aurait été impossible de toute façon. Selon les calculs d'Orfu, ce champ de force protégeait le conducteur du char de toute agression moins violente qu'une petite explosion nucléaire.
« Qu'est-ce qui le fait voler ?»
demanda Orfu tandis que le char disparaissait à l'est.
« Le champ magnétique martien n'est pas assez important pour propulser une machine volante EM. »«
Ce doit être le flux quantique, » dit Manmut depuis son perchoir.
Un vent assez fort s'était levé, soumettant la felouque au roulis et au tangage, tandis que la mer grossissait au sud. Orfu émit un bruit franchement obscène.
La distorsion quantique modulée peut déchirer l'espace et le temps, ainsi que les gens et les planètes, mais je ne vois pas comment elle peut propulser un char.
Manmut haussa les épaules bien que son ami ne puisse le voir.
Eh bien, celui-ci n'avait pas de réacteur. Je vais te télécharger les données, mais il me semble que ce truc surfait sur une écume de distorsion quantique.
Bizarre,
commenta Orfu.
Mais même un millier de machines volantes comme celle-ci ne suffirait pas à expliquer la perturbation quantique mesurée par Ripo au sommet de l'Impus Mons.
Non, fit Manmut. Au moins ce dieu ne nous a pas vus.
Il y eut une pause dans la conversation, et Manmut écouta la proue de la felouque briser les vagues et le vent faire claquer les voiles latines. Le passage de l'air produisait un sifflement dans le gréement, un son qui lui était fort agréable à l'oreille. Aussi agréable que les oscillations pourtant brutales du navire, qui l'accompagnait par pur réflexe tout en s'accrochant au mât d'une main à un cordage de l'autre. Il se trouvait dans la partie la plus large de la vallée engloutie, une section du nom de Mellas Casma, avec au nord une gigantesque mer secondaire nommée Candor Casma, où la profondeur atteignait plus de 8000 mètres. Et au sud des îles tout aussi gigantesques, mesurant jusqu'à 100 km de long et 30 ou 40 km de large, dont les falaises apparaissaient à l'horizon.
« Peut-être qu'il t'a repéré et qu'il a demandé des renforts à Olympus par radio, »
suggéra Orfu. Manmut émit l'équivalent radio d'un soupir.
« Toujours aussi optimiste. »«
Réaliste, »
corrigea Orfu, redevenant aussitôt sérieux.
« Tu vas bientôt devoir reparler avec les petits hommes verts, tu le sais. Nous avons trop de questions sans réponse. »«
Je sais, »
dit Manmut. Cette idée l'emplissait d'une nausée que ni Rouli ni Tangage n'auraient pu susciter en lui.
Peut-être ne devrions-nous pas tarder à gonfler ce ballon,
reprit l'Ionien. Manmut avait passé plusieurs jours à bricoler une nacelle plus volumineuse avec les éléments de celle qui était fournie avec le ballon, y ajoutant des planches prélevées sur les cloisons les moins indispensables de la felouque. Le PHV avait semblé indifférent à ses agissements.
« Je ne pense pas qu'il faille le lancer trop vite, » rétorqua-t-il. « Nous ignorons comment seront orientés les vents dominants ce mois-ci. Et les tuyères ne nous aideront guère si nous sommes pris dans le jet stream martien. Il vaut mieux se rapprocher le plus possible dans l'impus avant de décoller. »«
Je suis d'accord, »
dit Orfu au bout de quelques instants de silence.
« Mais il est quand même temps de discuter à nouveau avec les PHV. Je pense qu'ils pratiquent autre chose que de la télépathie. » Que ce soit quand ils communiquent avec toi ou quand ils se transmettent de l'information entre eux.
Ah bon ?
Fit Manmut, contemplant une douzaine de petits hommes verts qui venaient de lâcher leurs rames pour s'affairer sur le gréement de proue.
Je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir. Ils n'ont ni bouche ni oreille, et ils n'émettent sur aucune fréquence visuelle, radio, maser ou faisceau cohérent.
À mon avis, les données sont contenues dans les particules de leur corps.
Dit Orfu.
Des nanopaquets d'informations codées. C'est pour cela qu'il te demande de saisir cet organe interne dans ta main. Il doit s'agir d'une sorte de centrale télégraphique. Une main qui est organique contrairement à tes manipulateurs polyvalents. Des machines moléculaires passent ensuite par osmose dans ton système circulatoire et gagne ton cerveau organique où les mêmes nano-octets se chargent de la traduction.
Comment communiquent-ils entre eux, alors ?
Demanda Manmut d'un air dubitatif. L'hypothèse de la télépathie lui avait pourtant paru séduisante.
De la même façon, par le toucher. Leur peau est semi-perméable et sans doute échangent-ils des données à chaque contact, même superficiel.
Je ne sais pas. L'équipage de cette felouque semblait tout savoir de nous à son arrivée, rappelle-toi. Notre destination et le reste. J'ai eu l'impression que tout le réseau psychique des petits hommes verts avait été informé de notre présence.
Oui, c'est ce que j'ai cru moi aussi. Mais outre le fait que ni la science humaine ni la science Moravec ne sont parvenus à dégager un fondement théorique à la télépathie, le principe du rasoir d'Occam nous dit que ton équipage a forcément été informé de notre existence par simple contact physique avec les PHV qui se trouvaient ou s'étaient trouvés sur le lieu de notre débarquement.
Des nanopaquets de données dans le système sanguin, hein ?
Dit Manmut en faisant bien percevoir son scepticisme.
Mais l'un de ces individus doit quand même mourir si je veux leur poser des questions.
C'est regrettable.
Orphus s'abstint de réitérer son argument selon lequel un PHV donné n'était pas plus un individu qu'une cellule de l'épiderme humain. Plusieurs petits hommes verts grimpaient à leur tour sur le mât principal, ramenant la voile latine avec une aisance d'acrobate de cirque. Ils adressèrent un hochement de tête amical à Manmut en passant à son niveau.
Je crois que je vais attendre un peu avant de les interroger,
dit ce dernier.
Il y a un gros nuage bien sombre à l'horizon sud, et il ne faut pas qu'il manque de bras pour préparer le navire à subir la tempête qui s'annonce.